savez, on dit parfois que les enfants sont sans filtre. C'est une belle expression, je trouve, à l'heure où on peut plus s'en passer des filtres. À l'heure où la plupart des images que l'on publie, nous adultes, sont passées au filtre des couleurs et des contrastes qui n'ont plus rien à voir avec la réalité ou avec la vérité. À l'heure où l'on se met constamment en scène sur les réseaux sociaux, une version préférée de notre vie, de nous-mêmes. Sans filtre, on peut se targuer de l'être, non sans une pointe d'hypocrisie. Ou alors, ça relève de l'exception et de l'exemplaire. On est obligé de le souligner. Vous savez, que c'est sans filtre, sur un coucher de soleil qui semble irréel, sur un portrait dont on est fier, ou pour justifier de la folle liberté de quelqu'un ou de quelque chose. Quand est-ce que vous êtes sans filtre, vous, que vous mettez de côté les règles, les codes, les conventions? Quand est-ce que vous vous surprenez à dire ce que vous pensez? Quand est-ce que vous retrouvez en vous ce qui effraie tant chez l'enfant et que vous associez forcément au passé le sens inné de l'authenticité, cette façon qu'on avait de poser des questions tout le temps sans se demander qui ou quoi on allait offenser? Vous vous souvenez de ce langage qui n'avait rien de poli ou de polissé, de ces photos qu'on savait même pas retoucher et de ces cigarettes qu'on appelait les gauloises et qu'on fumait sans filtre?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-elle sans filtre? Actrice, humoriste, autrice, réalisatrice, révélée au gré de vidéos postées sur son compte Instagram. Notamment, elle fait parler les objets, filme son chien, sa voisine, le quotidien. Avec un sens inné de l'absurde, elle vient de faire paraître Marinette, 20 histoires sur la vie. Une BD plutôt très maligne, illustrée par Blanche Sabat. Sorte de manuel à destination des adultes et des enfants pour parler de tout sans tabou. Bonjour Marie Papillon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que c'est possible d'être encore sans filtre? Tiens, je me suis posé la question.
Ouais, je sais pas, c'est pour ça que j'ai fait Marinette. En tout cas, Marinette est sans filtre, mais ouais, j'aimerais bien qu'on soit sans filtre. Enfin, en tout cas, le livre est destiné à ça.
Mais même sur les réseaux sociaux, on peut être sans filtre, alors on en met tout le temps des filtres.
Ouais, je pense, ouais. Mais c'est pas mal aussi quand même, hein, de mettre des filtres.
Qu'est-ce qu'il y a de plus sans filtre en vous, Marie Papillon?
Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah, ça commence fort, Augustin. Qu'est-ce qu'il y a de plus de sans filtre en moi?
Ma liberté.
Je sais pas,
peut-être.
Oui, ma liberté, mon authenticité, ma bienveillance. Enfin, en tout cas, j'essaye.
Et chez l'enfant que vous étiez, il y avait du sans filtre aussi?
Oui, ma connerie, définitivement. En fait, c'est ça, c'est ma connerie qui est sans filtre. Ça n'a pas changé.
Dans quelle mesure est-ce que vous avez pourtant eu le sentiment d'avoir à vous censurer quand vous étiez enfant sur certains sujets dont on parlait pas? Le sentiment qu'il fallait pas parler de certaines choses?
Sur à peu près tous les sujets que j'aborde, en fait. Sur beaucoup de sujets, étant petite, en voyant les réactions. Effectivement, un enfant... moi, je me rappelle justement quand j'étais sans filtre et que je disais quelque chose, tout d'un coup, je voyais la tête des adultes ou « Non, faut pas parler de ça, faut pas dire ça. » Ou alors « Oh, non, mais tu dois pas dire ça, c'est pas... »
Oui.
Voilà. Et du coup, je me disais, mais c'est dingue, on peut parler de rien, là. C'est quoi ce bordel?
On peut plus rien dire, ouais. Marie Papillon. Et je pense évidemment à l'homosexualité. Vous qui avez fait de la lutte contre l'homophobie, l'un de vos combats, c'est d'ailleurs l'un des chapitres de votre livre. Mm-hmm. Ça, on n'en parlait pas.
Non. Ah non. Non, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Alors, on en parlait, mais pas dans le bon sens. Justement, on en parlait, mais c'était pas bien. Moi, à mon époque, maintenant, ça a changé. Encore, il y a beaucoup de travail, quand même. Mais je me rappelle que, pour moi, c'était la honte d'être lesbienne. Il fallait surtout pas être homosexuelle, quoi.
Pour autant, est-ce que ça a fait surgir des interrogations chez vous, toute petite? Est-ce que vous êtes posé desquelles?
Ah bah, moi, très vite, je me suis dit, oulalalalala, je suis dans une merde. Non, mais moi, très vite, ouais, je me suis dit, c'est apparemment, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas au bon endroit, comment je vais faire? Ça a été ça, ma première question, genre, comment je vais grandir? Comment je vais devoir faire semblant? C'était ça surtout.
C'est assez passionnant. Et là, je parle de moi aussi. Ouais. En tant que gay, je me rends compte que jeune, très jeune, j'ai dû faire face à quelque chose qui s'écartait de la norme et j'ai dû sans cesse, en fait, réfléchir, me poser des questions que possiblement d'autres enfants ne se posaient pas.
Ouais. Et moi aussi, je me disais, bon, comment je vais faire? Je vais faire. Et surtout, je me demandais, mais pourquoi on interdit les gens de s'aimer? Enfin, ça regarde qui, en fait? Je comprenais pas du tout ce concept de me dire, moi, si j'ai envie de, je la prends toujours en exemple, d'ailleurs, je l'embrasse comme d'habitude, la belle Clémentine. Si j'ai envie de courir après la belle Clémentine dans la cour, pourquoi je n'ai pas le droit de courir avec elle et pourquoi on n'a pas le droit de s'aimer? Enfin, Et j'ai grandi avec ces questionnements-là principalement, mais comme d'autres enfants ont eu sûrement d'autres questionnements sur des choses qui leur est arrivées. Et c'est pour ça que Marinette était important pour moi, c'est que chacun étant petit, on a grandi avec nos angoisses et nos questionnements et nos envies de plaire à tout le monde et de faire, de rester dans le droit chemin.
Oui, mais ce qui est intéressant surtout, c'est quelles conséquences ça a eu en fait, ces interrogations, ce silence aussi sur la façon de vivre son désir, son amour, son homosexualité, Marie Papillon.
Alors, pour ma part, ça a une conséquence où maintenant j'en fais un combat et en fait, à partir du moment où je me suis assumée en tant qu'homosexuelle et que j'ai dit, bah, ok, je suis comme ça, très vite je me suis dit, il faut que je me batte pour cette cause parce que j'ai quelque chose entre les mains et pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire encore ou qui n'ont pas bah, peut-être l'entourage ou simplement l'envie de le faire, je dois le faire pour eux, quoi. Dois le faire pour eux et il faut que je le fasse.
Et vous participez de cette visibilité, d'ailleurs, dans quelle mesure les choses ont évolué pour vous et évolué dans le bon sens quand même?
Ça a bien évolué dans le sens où bah, les gens ne se testent plus, où maintenant c'est plus... Enfin, je me rappelle, moi à l'époque, j'étais quand j'allais à des dîners, il y a 15 ans, c'était j'ai une copine lesbienne qui vient, quoi. C'était l'événement. J'étais la copine lesbienne. Je me disais quand même, c'est très bizarre. Donc j'arrivais au dîner, oh, t'as vu, elle porte des jupes, ouais, ça c'est dingue. Enfin, voilà, c'était ce genre de réflexion. Et maintenant, bon... on me dit plus c'est ma copine lesbienne, on dit juste c'est Marie. Pareil dans le travail, avant j'avais toujours ce truc de devoir à un moment donné mentionner le fait que je n'avais pas de petit Jules.
Vous aviez une petite Clémentine.
Oui, voilà, que j'avais ma petite Clémentine, mais il y avait toujours quand même une réaction des gens genre ah oui d'accord vous ah oui vous. Là ça ne l'est plus. Après maintenant quand je vois ce qui se passe dans l'actualité et je vois qu'on est encore très en retard sur beaucoup de ces questions. Je me dis, on avance, mais vraiment super lentement, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, quand même, pour pouvoir créer bah, justement des groupes. Il y a des comptes comme Pate, comme le coin des LGBT, qui sont des safe places, justement, pour toutes ces personnes-là.
Des espaces sécures, des voilà. Espaces...
Bah, on se sent pas seul et on se dit, bon, bah, en fait, il y a des gens qui sont comme moi, en fait.
C'est intéressant, cette violence. Qu'est-ce que vous en faites, vous, au quotidien? Vous, dont une grande partie du travail consiste justement à être sur les réseaux sociaux et qui évoquait d'ailleurs la question du cyberharcèlement dans votre livre. Comment... Face à ceux qui stigmatisent, qui insultent, ou même qui commandent sans filtre, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit?
En fait, ce qui est étrange, c'est que, par exemple, si on va poster une vidéo, qu'on va dire quelque chose, on va avoir 100 commentaires positifs, il y en a un qui est négatif, on va toujours retenir celui qui est négatif. Enfin, on a beau dire, bon, c'est pas grave, en fait, on passe toute la journée quand même, ce con, il a dit ça. voilà, et c'est quand même dingue, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes bienveillantes, je pense, sur les réseaux que malveillantes. Et c'est ça qui est un peu... à double tranchant avec les réseaux, c'est que d'un côté c'est un moyen superbe de création et de liberté d'expression dont moi j'ai bénéficié, et de l'autre il y a quand même le revers de la médaille où on peut se prendre, faut avoir beaucoup de recul et je pense être bien entouré pour pas se être déstabilisé.
Ça vous touche encore, ça vous heurte encore, ça vous blesse encore?
Oui, mais je pense comme tout le monde, c'est toujours blessant. Après, moi, j'ai toujours quelque chose où je me dis, bon, voilà, ça ne va pas changer le cours de ma vie, ça ne va pas changer qui je suis, ça ne va pas changer. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un met un commentaire ou que quelqu'un a un avis différent du mien, et je trouve ça chouette aussi même d'échanger avec des gens qui n'ont pas le même avis, que ça va, moi, changer ma vie et que je vais changer pour cette personne. Ça ne va pas arriver. Mais bien évidemment, je pense que tout le monde est touché quand... Il y a forcément un message qui est négatif envers soi, alors qu'on essaye d'être justement dans la bienveillance et dans l'amour, dans le positif.
Et puis j'ai l'impression que vous faites toujours un pari qui est celui du rire et de la légèreté, Marie Papillon. Ouais. Au fond, que peut le rire? Qu'est-ce que ça permet?
C'est vrai que pour moi, c'est assez intuitif d'utiliser le rire parce que je me dis que c'est quelque chose qui rassemble les gens, en fait. On n'est pas dans un débat hyper sérieux où, auquel d'ailleurs moi je suis assez nulle hein, en général, où voilà il faut dire ses arguments, où il faut parler, il faut dire non mais moi je pense comme ça parce que tout le monde pense un peu qu'il a raison. On est juste dans, on se marre quoi, rien que le fait d'avoir un sourire et de rire à quelque chose, même si on n'est pas d'accord, il y a quand même un échange mais plus sur une expression, sur une énergie. Et je pense que c'est ça que j'ai envie d'avoir aussi.
Vous voulez dire que ça réconcilie aussi le livre?
Ouais.
Le rire, pardon.
Et le livre, oui.
Et le livre aussi. Vous savez, c'est qu'il y en a une dans cette émission qui ne réconcilie personne. Ah ben c'est la culture, Marie. La culture et son actualité d'une austérité parfois problématique. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 17 novembre?
tout est départ. Du mouvement, il n'y a pas à démordre. Du mouvement dans l'azur ou l'asphalte, les volcans ou les glaces. Le moindre geste a semé des étoiles.
Welter et la manière, le très prestigieux prix Apollinaire de poésie vient d'être attribué à André Welter pour son recueil Séduire l'univers, précédé de À contre-peur, paru chez Gallimard. Poète, essayiste et homme de radio, l'auteur avait déjà été récompensé d'un concours de la poésie en 1996. Amateur de voyage au long cours, aventurier sonore, il sculpte depuis près de 60 ans une œuvre poétique vouée à l'amour, à la révolte, à la jubilation, souvent portée à l'oral avec la complicité de musiciens et de comédiens. À la bien.
Mysterious thing, time. When in doubt.
Réunion libre, tradition très anglo-saxonne, la réunion des acteurs d'une série ou d'un film culte, le ton d'un épisode inédit est à la mode, Marie. Après avoir vu les compères de Friends se rassembler 17 ans après l'arrêt de la sitcom, c'est au tour d'autres héros tout aussi mythiques de se prêter à l'exercice. HBO Max vient d'annoncer qu'Hermione, Ron et bien sûr Harry Potter allaient avoir droit à leur propre retrouvaille dans un épisode spécial diffusé début janvier, intitulé Retour à Poudlard. Les acteurs de la saga célébreront les 20 ans de la sortie du premier film au cinéma, ça ne rajeunit pas.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
Gréco sous le marteau, un peu plus d'un an après la disparition de la chanteuse et icône du swinging Saint-Germain, une exposition et une vente aux enchères des souvenirs de Juliette Gréco débutent aujourd'hui chez Drouot à Paris. En tout, 750 objets intimes seront montrés puis proposés à la vente pendant 3 jours. Parmi les trésors à y découvrir, un carnet d'adresses de poche, une collection d'automates anciens ou encore, clou de la vente, une très rare huile sur toile signée d'un certain Serge Gainsbourg.
Es un sonido.
Et enfin, mercredi, tout gris, cinéma tout oui. Aujourd'hui, dans les salles, on se laisse happer par Memoria, la 9e livraison du réalisateur thaïlandais Apichat Pongvirasettakul, récompensé du prix du jury lors du dernier festival de Cannes. Entre performances majestueuses et longs poèmes filmiques, le cinéaste plasticien plonge la toujours formidable Tilda Swinton au cœur d'une expérience de cinéma hypnotique. Il orchestre le dérèglement des sens, des sons d'une botaniste errante dans la jungle colombienne. Entre sortilèges sensoriels et quêtes mémorielles, c'est surnaturel. Et l'humoriste et comédienne et autrice Marie Papillon, invitée de Boulala, invitée de Boomerang ce matin. Marie Poppins, invitée de Boomerang avec son chapeau et
que
sa mallette. Ah, moi aussi. On n'en parle pas, pas encore, on reste sérieux. Pour Marinette, 20 histoires sur la vie, je le disais, c'est sur les réseaux sociaux que vous vous êtes fait connaître, et notamment pendant le premier confinement. Mm-hmm. Ce confinement, qu'est-ce qu'il a changé pour vous, concrètement?
Concrètement, bah, il a changé ma vie, je pense, mais comme beaucoup d'entre nous, en vrai. Mais moi, c'est vrai que je travaillais dans l'événementiel, donc je n'avais plus du tout d'activité comme la plupart des Français, et je me suis retrouvée avec moi-même à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour faire rire les gens? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer, à mon niveau, de changer un peu notre quotidien? Parce qu'on se faisait quand même sacrément chier. Et du coup, j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos, et à devenir un peu, à essayer d'avoir un peu un rendez-vous sur l'humour et à essayer de sortir surtout de cette ambiance complètement morose et super pesante, quoi, oppressante.
Oui, c'est ça, c'est cette idée de ce pari dont on parlait tout à l'heure, de la légèreté et de l'humour dans cette période. Ça vaut aussi pour d'autres humoristes femmes, comme Lison Daniel qu'on a entendu, exactement, qui nous a rejoint sur France Inter, ou Anaïde Rosam, la délicieuse Laura Felpin, des femmes de votre génération qui ont conquis les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passe encore, j'ai l'impression.
Ouais, mais d'ailleurs, je les cite souvent parce que je suis très fière d'elles, déjà, parce qu'elles sont hyper talentueuses. Et maintenant, quand on se revoit et qu'on parle du moment où on était pendant le confinement ensemble et qu'on a toutes été sur les réseaux, chez nous, avec notre téléphone, à faire nos petites vidéos, au moment où, bah, maintenant, elles tournent dans des films, où elles font des chroniques, où elles sont autrices.
Ou elles écrivent des livres, c'est ça.
Ouais, voilà. Non, mais, et du coup, à chaque fois, je les cite et ouais, je suis très, très fière d'elles.
Au fond, ces réseaux, quels outils est-ce qu'ils sont pour vous? Quels outils, même quel médium est-ce que c'est?
Pour moi, c'est un outil qui permet, en tout cas, de changer un peu le quotidien. Enfin, j'essaye, en tout cas, de changer un peu le quotidien des gens et d'apporter une légèreté et de rire, quoi. Surtout de rire. Moi, j'ai envie de faire rire les gens, mais c'est aussi, j'ai très vite compris que c'était un moyen de faire passer des messages et de pouvoir être engagé d'une manière différente et de pouvoir me positionner aussi sur mes engagements, comme l'homosexualité, comme le féminisme. Enfin, voilà.
Pour le plus grand nombre aussi, et tout ça grâce à un téléphone. Marie Papillon.
Ouais,
mais le téléphone, mais quel objet est-ce que c'est pour vous, le téléphone, tiens?
C'est beaucoup trop présent, franchement. Le téléphone, mais j'en parlais hier avec des copines, je me disais, tu te rends compte, on a grandi sans téléphone, quoi.
Bah ouais.
C'est quand même fou. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet.
Enfin, il y en avait qui avaient des petites antennes qu'on pouvait soulever.
Oui. Mais d'ailleurs, moi, j'ai chez moi 3 BlackBerry encore, que souvent je sors de mon placard pour appuyer sur les touches. Je me fais un petit kiff. Voilà. Donc ça, vous avez une info sur mes trucs.
Vous savez, je vous pose la question parce que je sais que les objets vous parlent.
Oui,
depuis quand
toute petite, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé. J'ai toujours vu des visages dans les objets. Et je pense que ma mère, qui me suivait tout le temps dans mes délires, ne m'a pas arrêtée. Je pense que du coup, j'ai embarqué là-dedans aussi, et heureusement.
Après, c'est une névrose générationnelle. Hein.
Oui.
On a vu La Belle et la Bête de Disney, la théière,
voilà,
Madame Samovar.
Sûr.
On s'est mis à voir effectivement dans les théières des visages. Quel est le premier objet qui soit confié à vous, Marie Papillon?
Le premier objet, c'était une commode. C'est d'ailleurs dans ma série, il y avait une grosse commode. Ouais. Et oui, j'aurais pu choisir autre chose, mais c'était vraiment une commode. J'avais une grosse commode dans ma chambre. Et je me souviens que les deux poignets faisaient des yeux. Et il y avait un t-shirt qui dépassait. Du coup, ça faisait une langue.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Mais je sais plus, on avait pas mal de conversations. Et comme en plus, j'étais très myope à l'époque, mais j'avais oublié d'en parler à mes parents, que je voyais que dalle. Et ben, du coup, je voyais cette commode un peu floutée. Et donc, ça faisait un visage.
Mais ça vous avait pas fait peur?
Non, mais non, elle était super.
Oui. Hein? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie, vous, Marie
Papillon? Qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est le temps qui passe. Ça, c'est de vieillir. Alors, pas physiquement, ça, je m'en fous complètement. De vieillir, de pas avoir le temps de tout faire. Le temps qui passe. Moi, je n'ai pas du tout envie de. J'ai pas du tout envie que ça passe. J'aimerais bien qu'on s'arrête à un moment donné.
C'est peut-être ça qui est si séduisant dans les objets, c'est que ça vieillit pas toujours.
Ouais. Je parle aux objets, j'écris des livres sur les enfants, donc clairement j'ai pas du tout envie de...
Vous avez vu qu'il y a plein d'objets là dans le studio, là, lequel vous parle? Parce que je suppose que...
Non, et alors je suis désolée, je vais vous... Non,
il y a un casque, il y a les papiers...
Non, je vais vous décevoir, il n'y en a aucun dans votre studio qui parle.
Aucun n'essaye de vous dire quelque chose?
Non. Bah non, franchement, alors là, je vais être claire là-dessus. Non, mais je vais pas inventer un objet alors qu'il y en a pas. Ça, je suis stricte sur la commission des objets, les visages. Il n'y a pas de visage dans ce studio.
Voilà. Il y a aussi cette idée dans votre attention aux objets qu'il s'agit justement de faire attention à eux, de bien les traiter, mm-hmm. de pas les maltraiter.
Bien sûr. Bah parce que pour moi, c'est des souvenirs surtout. C'est des souvenirs. Quand on a des objets comme ça, moi, ça représente des moments de vie. Enfin, parfois, je me dis, mais cet objet, qu'est-ce qu'il a fait? Dans combien de mains il est passé? Enfin, je trouve ça dingue qu'on ait quand même... Et puis même au niveau des énergies, enfin, je veux dire, ça rappelle beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de les préserver, effectivement. J'ai envie de les humaniser à un moment donné. Et puis, je les humanise aussi pour pouvoir passer des messages. Entendre des choses d'une passoire qui parle, ça passe beaucoup mieux que de moi, par exemple.
On les garde plutôt que d'en acheter des nouveaux tout le temps.
Ouais.
Il y a ça aussi, cette idée-là.
Ouais, et puis on se les passe, surtout, on les répare, parce qu'on est quand même dans une société où on a tendance, même dans nos relations, dès que quelque chose est cassé, à le jeter, alors que peut-être on peut simplement réparer les choses. Et les objets, moi j'aime bien cette idée de pouvoir les réparer un peu comme nous, en fait.
Je veux dire, concrètement, Marie Papillon, comment on fait pour s'entendre penser quand on est constamment sollicité par les objets, ne serait-ce que pour rester concentré dans la vie? Il y a des voix partout, je suppose.
Ouais. Mais après, moi, je me suis habituée. Hein. Moi, on est 10 000 hein, dans ma tête. Hein. Bon, là, ils sont tous en train de pioncer. Qu'est-ce qui est fou encore? Je sais pas. Elle est sur une émission. Voilà.
Mais c'était la commode, là.
Oui, exactement.
Quand vous sentez que vous perdez pied, vous êtes complètement dépassé au point de plus vraiment savoir comment vous vous appelez. Vous faites quoi, vous?
Qu'est-ce que je fais? J'appelle des amis.
Vous allez voir Dodo?
Ouais, je vais voir Dodo. Ouais.
Bien c'est sûr. Qui Dodo?
Dodo, c'est ma voisine, mon ancienne voisine, qui a plus de 75 ans, qui est devenue mon amie, ma grand-mère de cœur, quelqu'un de d'essentiel. On s'est connus parce qu'on partageait le même balcon et on s'est plus jamais quitté. Et c'est une femme extraordinaire que je vois très régulièrement. On s'appelle tous les jours. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai créé une amitié, un amour au-delà de la différence, l'écart de génération qu'on peut avoir. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est me rappeler qu'il y a des gens justement qui sont pas connectés, qui ont vécu d'autres choses, qui ont grandi dans un autre monde et qui essayent quand même de suivre et qui vont forcément m'apprendre des choses, quoi. Elle m'apprend des choses tout le temps.
Et qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre justement à ses côtés?
Déjà apprendre à être patiente,
le temps.
Apprendre à écouter, ouais. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Ouais, vous savez quoi, j'ai envie qu'on s'imagine ce matin, ouais, tous les deux, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, avec Dodo, tiens. Ouais. Main dans la main. Sur Élie et Jacquenot, on est en 1980, sur l'album Tout va sauter, vous êtes sur France
c'est
Inter.
C'est une de mes chansons préférées.
Ah, c'est cool, avec
oui,
Marie
j'adore.
Papillon.
J'adore les clips.
Vous écoutez Boomerang, et vous savez quoi, tout va bien. En fait, on est quelque part entre Buffy contre les vampires, Alice sans le pays des merveilles, la petite sœur, Gavroche, haute comme trois pommes, angélique, blondeur, regard barricade, sourire farceur, adepte de l'accolade, du tchèque, de la partie de petits chevaux, avec sa petite veste en jean ce matin, son pull en V, sa chaîne, son look un peu 90, la comédienne et autrice Marie Papillon, invitée de Boomerang pour Marinette 20 histoires sur la vie. Ce livre, et c'est peut-être le moment de revenir aux origines, quand est-ce que vous avez su que vous étiez drôle, Marie? on le sait à un moment donné, non?
Oui. Quand est-ce que j'ai su? Mais je pense que toute petite, hein. Enfin, en fait, moi, mon premier public, c'était ma mère, quoi.
Pourquoi? Parce que vous étiez farceuse?
Ah, bah oui, non, mais je.
Par exemple?
Bah, je sais pas. Par exemple, ce que je pouvais faire, c'est. Je me souviens quand ma grand-mère venait à la maison, j'avais acheté un coussin péteur en douce.
Ah, le coup du coussin péteur.
Voilà, et hop, je le mettais. Ou même à l'école, une fois, je me suis fait engueuler, je l'ai mis sous les fesses de la maîtresse. Par exemple, je me cachais sous le bureau, tac, je le mettais, voilà, je faisais ce genre de bêtises. Je mettais du sel dans l'eau, voilà.
Et vous avez su à quel moment qu'on pouvait gagner sa vie avec un coussin péteur et du sel dans l'eau? Que ça pouvait être un métier, en fait.
Ben, je pense que je l'ai jamais su, mais comme mes parents ne m'ont jamais, j'ai eu la chance d'avoir des parents, d'ailleurs je les embrasse, qui ne m'ont jamais interdit de pouvoir me dire que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, en tout cas dans mon métier, quoi. Ils m'auraient suivi n'importe comment. Donc, vu qu'ils m'ont pas dit non, attention, tu dois pas faire ça, ça, ça ou ça, je me suis toujours imaginé que peut-être, ouais, je pouvais gagner ma vie avec un coussin péteur.
Vous savez, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression, enfin, ce qui m'impressionne, en fait, c'est de voir comment, à partir de réseaux sociaux, vous avez très vite grandi aussi, peut-être assumé ce qui était chez vous un désir caché, à savoir écrire, tout simplement, et aussi jouer la comédie, l'assumer pleinement.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que vraiment, moi, y a, avant le confinement, on me disait, mais tu veux pas faire de la comédie, tu veux pas faire ça, ça. Moi, j'étais là, mais non, mais ça, eh, hey, oh, ouais. Vous êtes foufou, vous, moi, c'est pour rire, hein, attendez, je vais
la
pas
commode,
vraiment, ouais.
Le coussin péteur, merci,
vraiment,
mais non, merci.
Voilà, vous croyez vraiment qu'on va me prendre au sérieux? Et puis, en fait, avec le temps, et plus j'évolue dans cet univers, plus je me dis que j'ai toujours voulu le faire, mais que je me le suis jamais autorisé.
Et aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez comme comédienne, Marie Papillon?
Alors, oui, mais j'ai eu... Même le oui, hein, il est encore hésitant, t'as vu?
C'est
vous
plus
avez
le
vu,
alors.
Pardon.
C'est plus le alors. Alors, oui.
Ouais, voilà.
Ou ouais, dans le silence entre
non, mais,
le alors
ouais,
et le oui.
j'ai eu beaucoup de mal à me sentir légitime dans ce métier.
Et petite, quelles actrices vous faisaient rêver? Quelles étaient celles dont vous aviez un poster accroché dans votre chambre?
Bah, Sarah Michel Gellar.
Ah, oui, il faut l'appeler Gellar, hein, si vous gardez, vous voulez garder des avis, parce que c'est pas son nom, en fait. Hein. C'est comme Michel Pfeiffer qu'on appelle Michel Pfeiffer. Merci, mais non, merci, elle
ouais,
ne se reconnaît pas.
Ouais, désolé, Sarah. Mais je vais rester là-dessus, quand même.
Pourquoi elle?
Parce que c'était Buffy contre les vampires, et que c'était une meuf trop badass, qu'elle est dans les cimetières à la nuit, qu'on n'avait rien à faire, qui se battait, qui se laissait pas faire, et je me disais, mais c'est dingue, moi aussi, je vais être comme ça. Et puis, j'étais amoureuse d'elle, hein, clairement.
C'était une autre version de la féminité, surtout.
Ouais.
C'est ça.
Exactement.
Et c'est peut-être aussi lié à une époque, je me disais, où tout le monde se réunissait à un instant T devant la télévision.
Exactement. Et on attendait. On n'a plus ce truc-là d'attendre. Maintenant, on consomme les séries. On ne sait même plus par quelle série commencer. C'est vrai que moi, je me rappelle la trilogie du samedi. C'était dingue. Je me disais, bah, ça commence. Je prenais mon petit tabouret et à 20h50, j'attendais les 3 épisodes. Et donc, toute la semaine, j'attendais la suite. Et on n'a plus ce truc-là d'attendre et de savourer.
Non,
en fait.
C'est passionnant, en fait, ce que vous dites. Comment on fait aujourd'hui pour créer le désir autour d'un programme, autour d'une série, autour d'un film, autour d'un contenu quel qu'il soit, en fait? Comment vous faites, vous?
Mais j'ai pas de... Comment je fais? J'en sais rien, mais je vais me poser la question. Est-ce que je fais déjà?
À l'heure, vous parliez de la régularité, le fait de poster en fait régulièrement pendant le confinement. Ça, ça crée du désir, je suppose.
Mais parce que je pense qu'on peut faire. Si, j'ai une réponse quand même. Parce que moi, je le fais de manière spontanée, en vrai. Donc, c'est comme ça que je crée ma régularité. C'est que je vais le faire de manière spontanée, sans filtre. J'ai envie de dire, Augustin.
Qu'est-ce qui fait encore désirer aujourd'hui, à votre avis? Qu'est-ce qu'on désire?
Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on désire? Bah, on désire être bien, je pense. On désire être bien, on désire connaître, on désire apprendre, on désire peut-être aussi changer les choses, je pense surtout.
J'ai eu peur.
Parce que. Ah ouais?
Bah oui.
De quoi?
Mais j'ai cru que vous alliez dire moi.
Ah, mais non, mais attendez, mais. Mon cher Augustin, alors, justement, vous avez l'habitude d'interviewer tout le monde, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, on va inverser les rôles. Je vais donc commencer par lancer le jingle en agitant un doigt en l'air d'une manière assurée vers la régie, comme
bon
les
brangue.
Vrais pros de la radio,
oh là là.
Car j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est parti.
Boomerang. Marie Papillon.
Boomerang.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est Augustin Trapenard. Alors Augustin, comme on est dans la version low cost de Boomerang, ici c'est le tutoiement obligatoire.
Okay.
Au risque de faire chuter l'audimat, je suis désolée. Mais bon, vu que c'est mon émission, je fais ce que je veux.
Okay.
Voilà. J'ai donc fait quelques petites recherches sur toi.
Oui.
Ouais, ça fait bizarre quand même. Donc attends,
j'ai très peur.
Je vais me m'habituer.
Oui, surtout qu'on se connaît pas.
Toi. Tu. C'est bon, voilà. Je suis ravie de voir qu'on a pas mal de points en commun.
Hein. Oh.
Alors, chers auditeurs, vous devez en apprendre un maximum sur mon invité en un minimum de temps. Je vous conseille donc d'être très attentif, car les informations qui vont suivre vont sûrement changer à tout jamais le cours de votre vie. Augustin, tu adores prendre un bain après ton café.
Oui, je prends des bains tout le temps, effectivement, j'aime bien le café.
Ouais. Donc, je vous avais dit qu'on était sur du scoop.
Oh
là là, ça commence fort.
La profondeur
mais
aussi.
Mais du coup, pour quelle raison, Augustin, ça te rappelle quoi? Qu'est-ce que c'est un plouf dans l'enfance? Il en reste quoi du petit Augustin?
Oh là là.
Non, attends, désolé, mais en revanche, je suis désolée, on n'a pas le temps pour la réponse. Je te l'ai dit, c'est une émission low cost, donc on en parlera plus tard. Comme moi, tu adores les chiens, et en particulier un à qui Bibi et moi pensons très fort ce matin, et qui nous écoute sûrement de là-haut, depuis son bain de croquettes, qu'il aura sûrement pris comme toi après son cas. caca, du coup, puisque les chiens ne boivent pas de café. Comme moi, tu as 21 cm de jambes. Tu as dans les tatouages, et moi aussi, le mien est un papillon sur les fesses, bref. Et les tiens sont des citations de Faulkner. Alors, pour tout avouer, et pas tout tatouer... Ouais, c'était pas ma meilleure. Je n'ai même pas ri. Bref, je pensais au début qu'il s'agissait d'un personnage de New York section... New York section criminelle. Tu te rappelles de cette série
ou vaguement,
voilà,
ouais.
Avec Olivia Benson et oui. Voilà. J'ai donc tapé sur les internets citation de Faulkner et je me suis dit, ce flic est quand même sacrément déprimé. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. L'homme sait bien peu de choses sur ses semblables.
Qu'est-ce qui se passe dans cette
pour
émission.
Être grand, il faut 99% de travail.
C'est n'importe quoi.
Alors perso, Willou, le taf n'a rien à voir avec la taille. Je bosse tous les jours et je fais toujours 1m58. Hein. Oui, ce n'était pas une blague, les jambes de 21 cm.
Oh, bah, un peu plus quand même.
Voilà.
Marie.
En fin de compte, Augustin, c'est quelqu'un comme vous, comme tu. Bourré de surprises et de contradictions. Mais c'est surtout une bête de texte. Ouais, elle est mieux celle-ci. Vous pouvez la noter, je vous la donne. Elle est un des plus grands intervieweurs du monde avec un parcours incroyable. D'ailleurs, Augustin, je te demanderai du coup d'être honnête avec moi. Si c'était à refaire, referais-tu ce qui n'a pas déjà été fait, qui pourrait être fait, sans t'empêcher d'aller vers les autres? Parce que, en fin de compte, la liberté a un prix. Ah, dommage! Oh, tu allais répondre, mais nous n'avons plus le temps.
Non.
Mais donc, pour finir, comme dirait Chimène Badi et Lara Fabian, dont nous sommes tous les deux de grands
totalement,
fans.
Totalement, oui.
Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire. Un jour.
Mais surtout.
Je t'aime.
Là, vous me faites quelque chose.
Je t'aime.
Comme un fou.
Voilà.
Comme un soldat. Comme une star de cinéma. Merci Marie Papillon d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Marinette, 20 histoires sur la vie, votre BD illustrée par Blanche Sabat et publiée dans la collection Les Insolentes chez Hachette vient de paraître. C'est un livre transgénérationnel, c'est délicieux, c'est pour ça qu'on vous dit merci ce matin. Par contre, je m'adresse là tout de suite à mon équipe et je dis c'est la dernière fois que je ne valide pas les choses avant une émission. Tout de suite les médias, Sonia De Villers, l'instant même, juste après ça.
Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was, yeah, yo, you know I did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they waiting get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber. I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches like me dear, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion.
Lil Nas X, Industry Baby, 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers. L'instant M, ça va chère Sonia?
Ça va très bien Augustin, bah salut,
à demain.